VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire, le Parlement togolais suspend ses travaux alors que l'opposition avait appelé à assiéger le bâtiment sous haute surveillance policière. Les violences dans le nord-ouest de la Centrafrique privent plus de 28 000 personnes d'aide humanitaire. Selon un rapport de l'UNICEF et de l'OIM, plus de trois quarts des enfants sont victimes d'abus lors de leur périple vers l'Europe. La Corée du Nord menace d'user de tous les moyens à sa disposition en réaction aux nouvelles sanctions du Conseil de sécurité. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Un cadre du parti burundais d'opposition Union pour la paix et le développement a été enlevé aujourd'hui pendant qu'il se déplaçait à pied avec son épouse dans Bujumbura. L'information a été donnée par sa famille et par son parti. Léopold Habarugira, 54 ans, est le trésorier de l'UPD et un des rares responsables d'opposition à ne pas s'être exilé malgré la crise violente que traverse le Burundi depuis la décision en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat controversé obtenu en juillet de la même année. En République centrafricaine, 28 000 personnes privées d'aide humanitaire, les ONG internationales, ont annoncé ce mardi la suspension de leurs activités pour une durée indéterminée à Batangafo, décision prise au lendemain de nouvelles attaques visant les humanitaires dans cette ville. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Dans un communiqué, la coordination des ONG internationales dénonce une attaque de trop. Elle mentionne que des lance-roquettes et des armes automatiques ont été utilisées contre une base humanitaire par une centaine d'assaillants. Conséquence, le retrait des humanitaires et la cessation définitive de leurs activités. Doutio Staderini, coordinateur du comité des ONG internationales.
Cette attaque, elle a été d'une extrême violence, avec l'utilisation notamment d'armes automatiques, un nombre important d'attaquants et des menaces très très claires sur le personnel humanitaire, et donc les organisations humanitaires concernées ont pris la décision de retirer leur personnel et d'abandonner leur structure et donc aussi de suspendre à durée indéterminée leurs activités.
Avec cette décision, ce sont plus de 28 000 personnes en détresse qui seront privées d'aide humanitaire. Pour le moment, seul MSF, Médecins sans frontières, continue de prêter main forte à la population, notamment dans les urgences vitales. Les récentes violences à Batangafo ont provoqué la mort d'au moins une dizaine de personnes et le pillage systématique des bases des ONG humanitaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la société civile propose son propre calendrier électoral, invitant les autorités de Kinshasa à présenter leur calendrier officiel afin de sortir le pays de la crise née du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Selon ce chronogramme fictif, l'élection présidentielle aurait lieu le 31 décembre avec convocation du corps électoral au 1er octobre et une campagne électorale du 1er au 30 décembre. Le gouvernement a récemment promis de publier un calendrier électoral réaliste. Demain, les députés togolais vont commencer l'étude du projet de loi portant modification de la Constitution. La décision a été prise à l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement ce mardi à Lomé. Le point avec notre correspondante Kay Lawson.
Aussitôt la session ouverte et l'ordre du jour présenté, que les députés de l'opposition avec à leur tête Jean-Pierre Fabre attaquent l'ordre du jour qui est relatif au budget 2018 du Parlement. Ils estiment qu'avec la tension actuelle dans le pays, il est urgent de passer à l'étude de l'avant-projet de loi adopté en Conseil des ministres le 5 septembre dernier portant modification de la Constitution. Un débat houleux s'est ouvert entre les députés du pouvoir et ceux de l'opposition. Pris de court, le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a préféré suspendre la séance pour 10 minutes, mais cette suspension aura duré plus d'une heure. Au retour, nouvelle suspension pour une reprise de la session ce mercredi 13 septembre, avec à l'ordre du jour l'avant-projet de loi portant modification de la Constitution. Il est à noter que la population n'a pas répondu à l'appel de l'opposition de prendre d'assaut ce mardi le siège du Parlement. Pour les leaders, c'est l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé dans la zone du Parlement qui aurait dissuadé leurs militants et sympathisants. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la menace djihadiste pèse toujours sur le pays, un mois après l'attentat de Ouagadougou qui a fait 19 morts et 21 blessés. Des experts décortiquent des zones d'ombre qui entourent cette psychose sécuritaire. Le point avec Gaby Dorsil.
Crainte de radicalisation dans le nord instable, force de sécurité défaillante, état faible et surveillance difficile, le gouvernement ne pourrait pas redresser la situation si une lutte multidimensionnelle n'était pas menée, a averti Lassina Diarra, auteur de la CDAO face au terrorisme transnational. Monsieur Diarra estime qu'on ne peut pas se contenter de mesures sécuritaires opérationnelles sans une lutte idéologique. Ouagadougou peine à stabiliser le nord du pays, qui connaît une radicalisation près de la frontière malienne. Le prédicateur et chef présumé de ces djihadistes, Malam Diko, désormais homme le plus recherché du pays, s'appuie sur une proximité avec les populations les plus pauvres, marginalisées par le pouvoir central, tout comme par l'aristocratie musulmane locale. Ceci met en danger toutes les villes du Burkina et particulièrement la capitale. D'après Lassina Diarra, le gouvernement doit créer des conditions de développement et d'emploi pour les jeunes en vue de regagner la confiance de la population et collecter le renseignement indispensable. Des imams crédibles devraient s'impliquer pour sensibiliser les populations sur les dangers de la radicalisation, a-t-il souligné. L'attaque terroriste contre l'établissement Aziz Istanbul, le mois dernier, n'a pas encore été revendiquée. Il y a un an et demi, un attentat similaire avait visé le restaurant Cappuccino, le Splendid Hotel et le bar Le Taxi Brousse. Le bilan total était de 49 morts et 92 blessés.
En Guinée, les élections locales attendues depuis 2005 et réclamées par l'opposition ne devraient pas avoir lieu d'ici la fin de l'année. C'est ce qui ressort d'une réunion du comité de suivi du dialogue inter-guinéen. Le président Robert Mugabe proclame l'autosuffisance alimentaire du Zimbabwe. Selon lui, le pays a produit suffisamment pour nourrir sa population. Une première depuis le lancement en 2000 d'une réforme agraire très controversée qui a exproprié les fermiers. Blanc. Et puis le chef de l'opposition djiboutienne Ahmed Youssouf Oumed est mort dimanche en France à l'âge de 79 ans. L'annonce a été faite aujourd'hui par un représentant de son parti, l'Union pour le Salut National.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump se rendra en Floride jeudi pour constater sur le terrain les dégâts causés par l'ouragan Irma. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche. Mes pensées sont toujours avec tous ceux qui ont été touchés par les ouragans, a tweeté de son côté la première dame Melania Trump, précisant qu'elle se rendrait en Floride avec le président. Un réseau de faux mariages entre l'Allemagne, le Portugal et le Nigeria a été démantelé aujourd'hui à Berlin. Les 5 personnes, 4 femmes et un homme, soupçonnés d'être à la tête de ce réseau, ont été interpellés. Le réseau aurait organisé au moins 70 mariages blancs entre des Portugaises et des Nigérians, afin que ces derniers obtiennent un titre de séjour dans l'Union européenne, selon la police. Les Nigérians devraient payer chacun 13 000 euros au réseau dont une partie était destinée à ces Portugaises. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité et à l'initiative des États-Unis une nouvelle résolution de sanctions contre la Corée du Nord, interdisant notamment ses exportations de textiles et réduisant ses approvisionnements en pétrole. Le point avec John Linden.
Pour les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou l'Italie, la résolution adoptée hier est très solide, équilibrée et permet à l'ONU d'affirmer son unité et sa détermination. Nous ne cherchons pas la guerre, a assuré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, qui avait la semaine dernière affirmé que la Corée du Nord ne demandait que ça. Hier, elle a admis que ce pays n'avait pas pour autant franchi un point de non-retour. Séoul a pour sa part salué l'adoption de cette résolution, la qualifiant d'avertissement sévère pour la Corée du Nord. À Tokyo, le premier ministre Shinzo Abe a lui aussi hautement apprécié cette résolution, la qualifiant de rapide et forte. Cette 8e série de mesures approuvées par la Chine et la Russie, les plus proches soutiens de la Corée du Nord, vise à punir ce pays pour son essai nucléaire du 3 septembre. Par ces sanctions, chaque fois plus sévères, l'ONU espère pousser Pyongyang à négocier ses programmes nucléaires et balistiques, jugés menaçants pour la stabilité mondiale. Mais ces nouvelles sanctions pousseront-elles la Corée du Nord à fléchir? Rien n'est moins sûr.
Des milliers de Rohingyas continuaient de fuir la Birmanie vers le Bangladesh où plus de 370 000 personnes sont arrivées depuis fin août. Un exode massif qui s'apparente à un nettoyage ethnique d'après l'ONU. Le Conseil de sécurité se réunit d'ailleurs demain sur cette question. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a affirmé qu'il allait dissoudre un organisme créé pour gérer la bande de Gaza. Cet organisme est perçu par le Fatah de Mahmoud Abbas comme étant une entrave à la réconciliation palestinienne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, la Minute Éco, présentée par Jacques Aristide.
En Côte d'Ivoire, les autorités annoncent que l'exportation de la fibre et de la graine de coton sera désormais soumise à un agrément délivré par le Conseil du coton et de l'ANARCAD. La Direction générale des douanes indique dans une circulaire que les exportations par voie terrestre seront ainsi interdites au cours de la campagne de commercialisation qui démarre en novembre pour prendre fin en janvier-février prochain. La Banque mondiale demande au Cameroun de mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire pour attirer davantage d'investissements privés, recommandation formulée hier par Elisabeth Yuben, directrice locale des opérations de la BM. Les engagements financiers de l'institution au Cameroun ont atteint un volume record au cours de l'année fiscale 2017, soit plus de 700 millions de dollars, dont 325 millions alloués à la nouvelle Société nationale de transport de l'électricité. Le Zimbabwe de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire grâce à une bonne saison de pluie et l'introduction d'une centralisation de l'agriculture. D'après son président Robert Mugabe, le gouvernement, dit-il, s'attelle désormais à consolider ses bons résultats, dont une bonne récolte de maïs, en investissant notamment dans l'irrigation et la collecte d'eau. Il s'agit d'une première depuis le lancement en 2000 d'une réforme agraire très controversée qui a exproprié les fermiers blancs.
La page de sport avec Nicolas Pino. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Éliminatoire de la Coupe du Monde 2018, l'Afrique du Sud accepte finalement de rejouer face au Sénégal comme l'avait décidé la FIFA.
La première rencontre en novembre dernier avait été marquée par un pénalty imaginaire sifflé après une main inexistante et l'Afrique du Sud l'avait emporté 2-1, souvenez-vous. Mais depuis, évidemment, la FIFA et la Confédération africaine de football sont intervenus. L'arbitre a été suspendu à vie et la FIFA a décidé de rejouer ce match pour manipulation de match. Dans un premier temps, l'Afrique du Sud n'avait pas exclu d'intenter un recours contre cette décision, mais elle s'y est finalement pliée. Le match aura donc lieu. Le Sénégal est actuellement troisième du groupe D, à un point du Cap-Vert et du Burkina Faso, alors qu'il reste 2 journées à disputer. Seul le premier du groupe décrochera son ticket pour le Mondial 2018 en Russie. En revanche, les Bafana Bafana sont déjà derniers du groupe et, en cas de défaite, ils seraient définitivement éliminés.
La phase de poule de la Ligue des Champions qui démarre ce mardi en Europe.
Dans le groupe A, toujours leader de la première ligue en Angleterre, Manchester accueille le FC Bâle, champion de Suisse depuis 8 ans. Une réception dont devront se méfier les Red Devils qui pourront compter sur Romelu Lukaku, auteur d'un but ce week-end lors du match nul 2-2 à Stoke City. À suivre aussi Benfica contre le CSKA Moscou et dans le groupe B, le Paris Saint-Germain en déplacement chez le Celtic à Glasgow. Neymar sera la vedette pour permettre à son nouveau club de remporter enfin la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich de son côté accueille Anderlecht. Dans le groupe C, le petit poussé Karabakh d'Azerbaïdjan se déplace à Chelsea et surtout au stade olympique l'AS Rome qui accueille l'Atlético Madrid. Dans le groupe D, le feu d'artifice de cette première journée au Camp Nou, le Barça accueille la Juventus Turin. Les Blaugrana et leur nouvelle recrue Dembélé auront à cœur de montrer qu'ils sont toujours des grands d'Europe. En face, la Juventus Turin, finaliste malheureux de l'édition 2017, voudra montrer qu'elle a de l'ambition. Et le dernier match de ce groupe, l'Olympiakos contre le Sporting Portugal.
Et demain, d'autres belles affiches.
Dans le groupe E, à Anfield Road, Liverpool face au FC Séville, les Reds, qui ont été corrigés ce week-end 5-0 en championnat, devront vite réagir. Manchester City, auteur de cette correction, se déplace chez le Feyenoord Rotterdam dans le groupe F. Dans le groupe G, le champion de France en titre, Monaco, orphelin de Kylian Mbappé, parti au PSG, se rendra en Pologne pour affronter Leipzig. Enfin, dans le groupe H, le Real Madrid à la peine en championnat sans Cristiano Ronaldo, suspendu, contrat sur sa star portugaise pour dynamiter la défense de l'APOEL Nicosie.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez, Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. L'Organisation internationale pour les migrations et l'UNICEF ont rendu public ce matin un rapport qui repose sur les témoignages d'un peu plus de 22 000 migrants et réfugiés, dont 11 000 enfants et adolescents. Et selon l'OIM, trois quarts des enfants et des jeunes qui migrent pour rejoindre l'Europe par la Méditerranée font face à des cas d'abus et d'exploitation. Pour en parler, John Lyndon a joint à Genève Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale des migrants, et qui nous parle ici de ces personnes vulnérables.
Elles sont victimes de la traite, peuvent faire l'objet d'exploitation, d'être imbriquées dans des réseaux de prostitution. Et voilà, et bien évidemment, en arrivant de manière irrégulière, ces jeunes sont destinés à demeurer irréguliers et n'ont pas les mêmes armes pour pouvoir se défendre une fois qu'ils sont arrivés en Europe.
Est-ce que votre rapport a réussi à déterminer quelles sont les causes pour lesquelles ces jeunes quittent l'Afrique, par exemple, pour ce qui concerne le continent ?
Bien évidemment que les causes de ces départs pour ces enfants sont bien évidemment les mêmes que celles qui motivent les un peu moins jeunes à partir, notamment de l'Afrique de l'Ouest. On le voit bien évidemment, ce taux de chômage pour les jeunes qui est important, un désir aussi de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille ou d'un village entier. Donc tout ça motive ces jeunes à partir, et il y a bien évidemment aussi l'entretien de ce rêve de l'Europe vue comme un Eldorado.
Alors, ces jeunes débarquent dans beaucoup de pays européens, l'Italie, l'Espagne et bien d'autres. Est-ce que vous avez une idée de ce que les autorités sur place font pour essayer d'éviter ces abus ?
Ce que l'on sait, nous, à l'Organisation internationale pour l'immigration, c'est ce que nous faisons une fois que ces personnes sont débarquées et arrivent dans les ports des pays que vous venez de mentionner. Ce qui est évident, c'est que en partenariat avec les autorités gouvernementales locales, nous identifions les personnes les plus vulnérables, bien évidemment les jeunes, les enfants, mais aussi les femmes et d'autres personnes, et c'est ce que nous faisons. Donc ça, c'est notre priorité. Après, par la suite, bien évidemment, ça dépend des politiques nationales.
Alors, ça fait des années que l'on parle de migrants et du drame des migrants. Qui est responsable de quoi, et a-t-on une solution définitive à ce problème?
La Méditerranée, encore une fois, n'est pas qu'européenne et n'est pas européenne seulement. Ce que l'on voit, cette urgence migratoire pour le moment en Méditerranée nous démontre bien une chose, c'est que nous devons agir tous ensemble pour pouvoir identifier et trouver une solution. Et notre priorité est, encore une fois, de pouvoir faire en sorte que ces enfants n'aient plus à risquer leur vie en traversant la Méditerranée.
C'était Florence Kim, porte-parole de l'OIM.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la crise politique au Togo, marquée par des manifestations de l'opposition et des contre-manifestations du parti au pouvoir. Les opposants dénoncent le projet de loi du gouvernement sur la modification de la Constitution et réclament le départ du président Faure Gnassingbé. Que prévoit ce projet de révision constitutionnelle ? Les dirigeants, tant de l'opposition que du gouvernement, doivent-ils privilégier le dialogue pour calmer les esprits ? Quelle solution voyez-vous pour régler la crise ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le poisson est une denrée très prisée au Burundi, mais les prix ont grimpé ces derniers temps à cause de la pollution du lac Tanganyika, rendant le travail des pêcheurs plus difficile. Reportage à Bujumbura, Christophe Kourounziza.
Kinama, Kamenge, Okaf, Buiza, Buyenzi, Jabé, Nyakabiga, Moussaga et autres quartiers au nord et au sud de la capitale. Vers 10h, des vendeurs de petits poissons appelés Ndagala arpentent les rues et avenues appelant les habitants de ces circonscriptions à venir s'approvisionner en cette denrée prisée par la majorité des natifs de la capitale. Après maintes discussions avec un montant variant entre 500 et 5000 francs burundais, les acheteurs enfilent les tas de poissons Ndagala. Cette maman est contente de sa prise. Témoignage.
Bien sûr que j'ai acheté parce que j'aime beaucoup le ndagala. Même si c'est cher, c'est pas comme avant. On aime manger ça, on prépare avec les tomates, on mange ça avec la pâte de manioc. C'est bon, hein, on aime beaucoup. J'ai acheté même si c'était cher. C'est pas comme avant, on n'a pas de moyens, on n'a pas le travail. Nous sommes obligés d'acheter le ndagala au lieu d'acheter la viande. Parce que c'est moins cher. Avant, on avait du travail. Il y avait de l'argent. Maintenant, il n'y a pas grand-chose.
Si l'acheteur est content de sa prise de la journée, le vendeur lui aussi ne cache pas sa joie.
Nous gagnons un peu d'argent si nous avons beaucoup de clients. On ne demande pas beaucoup d'argent aux clients. On rentre souvent avec 40 ou 50 000 francs. Les clients peuvent croire que le prix monte, mais tout dépend de comment nous avons acheté ces ndagala. Ça dépend de beaucoup de facteurs et du prix que nous avons acheté et de la disponibilité de ces poissons.
Le petit poisson d'agala que l'on partage avec la pâte de manioc est un des repas prisés des millions de citadins. Le prix du riz et du haricot, deux aliments de base des Burundais, a augmenté ces derniers temps. Cet habitant appelle les responsables à contrôler les prix des produits alimentaires de première nécessité.
De nos jours, les prix ne cessent d'augmenter. Il faudrait que ceux qui contrôlent la hausse des prix ou la chute des prix puissent regarder comment est l'état des poches des citoyens. Parce que c'est pas tout le monde qui a ce travail pour qu'il puisse se donner ce repas du midi ou bien du soir. Et il faut aussi travailler jour par jour parce que, à ce que je remarque, les prix augmentent jour par jour et cela ne favorise pas tout le monde.
Depuis plusieurs mois, les prix des denrées de première nécessité ont augmenté. La crise qui frappe le Burundi a touché aussi les poches des citoyens ordinaires qui ne parviennent plus à lier les deux bouts de la journée et partant les deux bouts du mois. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Voilà, c'était un reportage de Christophe Nkurunziza à Bujumbura. On passe au Mali, où la commission des bons offices demande l'implication du président Ibrahim Boubacar Keïta pour obtenir la libération de certaines personnes qu'elle considère comme étant injustement détenues. Selon la commission, ces prisonniers sont innocents et n'ont rien à voir avec les terroristes qui opèrent au Mali. Lors de leur rencontre avec le président malien, les membres de cette commission ont mis l'accent sur les actions de sensibilisation, le retour de l'État dans les localités abandonnées, mais aussi sur la paix, la réconciliation et le vivre ensemble entre les différentes communautés. Le point avec Kassim Traoré.
La mission des bons offices a été mise en place pour Kidal, le Delta central et la boucle du Niger, là où il y a encore des terroristes qui sévissent. Leur mission est de parler aux Maliens afin d'asseoir une véritable paix dans les cœurs et les esprits. À Koulouba, l'imam Mahmoud Diko, président de la commission des bons offices, était venu faire la restitution de leur forum qui a porté sur la contribution des notabilités traditionnelles, les maîtres coraniques au retour de la paix et à la quiétude dans le Delta central et la boucle du Niger.
Se mettre ensemble, se concerter, parler avec les acteurs qui vivent sur ces lieux-là pour demander eux-mêmes leur impression par rapport à la solution de sortie de crise. Parler aussi de problématiques des écoles coraniques. Vous savez, c'est des milliers, voire des millions d'enfants qui sont éduqués, qui sont instruits dans ce secteur, mais en réalité, l'État n'a aucun droit de regard sur ce qui se fait. Nous devons penser qu'aujourd'hui, vu la situation sécuritaire dans notre pays, et ce qui se vit à travers le monde même aujourd'hui, serait responsable, en tout cas, pour nous d'avoir un regard sur ces enfants.
Au nom de la communauté PIL, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aliou Ndiallo, a pris la parole.
C'est remercier le chef de l'État d'avoir accordé tant d'importance aux écoles coraniques, tant d'importance au delta intérieur du Mali, à certains cercles de la région de Ségou où la violence s'exerce aujourd'hui. Tant qu'on ne résoudra pas la violence qui s'exerce aujourd'hui dans l'Adrar des Iforas, il est extrêmement difficile de résoudre les problèmes du delta intérieur. Les problèmes sont liés.
Les recommandations formulées par la mission de bons offices ont été présentées au chef de l'État par leur porte-parole, Maître Hassan Bari. Il a insisté sur la libération de certaines personnes arrêtées.
Nous avons entendu durant ces deux jours beaucoup de personnes, des marabouts, des imams, des simples citoyens qui sont venus nous dire « Nous avons un nombre important de gens qui sont détenus. Nous souhaiterions que le forum adresse au président de la République une demande. » Et celle-là, je vous l'assure, c'est une demande forte venant de la base. Nous voudrions que vous vous impliquiez afin que certains qui sont détenus, dont la situation n'exige pas une incarcération quelconque, que ces individus puissent recouvrir la liberté.
Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotion. Cette initiative du président du Haut Conseil islamique est très heureuse. Et je suis certain qu'elle va participer à l'apaisement que nous recherchons dans l'État central du Mali. Et ce que j'ai vu ici aujourd'hui, tous les fils de cette région, tous les érudits de cette région engagés dans le combat pour la paix, Inch'Allah, cette paix nous l'obtiendrons. Dans les meilleurs délais, dans la suite de mon voyage à Mopti, c'est un heureux paysage. J'en remercie les protagonistes et tous ceux qui en ont été les auteurs. Et pour ma part, et pour la part du gouvernement, nous demeurons engagés pour la cause de la paix au Mali. Ce qu'ils ont dit sera examiné à l'aune des intérêts du Mali, Inch'Allah, et de la paix.
Les participants à cette restitution étaient pour la plupart des notabilités, des maîtres coraniques qui sont tous engagés à maintenir cette dynamique. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'opposition kenyane a boycotté ce mardi le discours du président Uhuru Kenyatta à l'Assemblée nationale. Une nouvelle étape dans le bras de fer entre pouvoir et opposition, alors que l'élection présidentielle sera reprise le 17 octobre. Le point avec Michel Joseph.
C'est devant uniquement les législateurs de son parti que le président Kenyatta a prononcé le traditionnel discours d'ouverture des travaux de la nouvelle législature.
I would like to make it abundantly clear that my government will not tolerate.
Je voudrais dire le plus clairement possible que le gouvernement ne tolérera aucune tentative de perturber notre paix et notre stabilité durement acquises. En aucune circonstance, les Kenyans ne permettront que notre processus libre et compétitif ne devienne une menace pour la paix et la sécurité de notre pays.
And security of our nation.
Les députés de l'opposition kenyane ont boycotté la session inaugurale du Parlement, citant l'annulation par la Cour suprême pour irrégularité de la victoire du chef de l'État sortant à la présidentielle du 8 août. À la suite de cet arrêt, le président Kenyatta avait traité les juges de la Cour suprême d'escrocs. Il a adopté un ton plus conciliant dans son discours de mardi, appelant les trois branches du gouvernement à respecter la volonté populaire.
It must be understood that marked ballots represent more than technology.
Cela doit être compris que les bulletins de vote marqués représentent plus que la technologie, que le système informatique, ou même le lieu d'impression des bulletins. C'est le choix souverain du peuple, un choix secret qui ne doit plus jamais être frustré ou ignoré.
À quelques kilomètres du Parlement, dans le bidonville de Kibera, le leader de l'opposition, Raila Odinga, a réitéré sa position selon laquelle la commission électorale kenyane doit être remaniée.
We are saying that we are not ready to go for an election.
Nous disons que nous ne sommes pas prêts pour les élections avec la composition actuelle de la commission électorale. Nous avons posé les conditions sous lesquelles nous prendrions part à ces élections. Et à moins que ces conditions ne soient remplies, il n'y aura pas d'élection le 17 octobre.
Le parti Jubilee au pouvoir et la coalition NASA de l'opposition ont rencontré séparément la commission électorale mardi. Les opposants disent avoir reçu un document qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner. Le camp du président Kenyatta se dit de son côté disposé à prendre part à la présidentielle du 17 octobre avec la configuration actuelle de la commission électorale.
Voilà, merci à Michel Joseph pour ce reportage. Merci à Joselle Molissin qui a mis en onde cette édition. Présentation Abdourahmane Dia. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.